Je vous l'ai déjà dit, je crois, chez nous, nous ne sommes que deux enfants. Alors, j'ai une petite sœur qui est 3 ans et demi plus jeune que moi. Elle est maintenant maman de 4 jeunes adultes, grands ados. Mais on a déjà été tous les deux assez jeunes. Et je me rappelle l'époque où, lorsque nous étions tous deux en bas âge, c'était très facile pour moi de faire choquer ma petite sœur. Elle avait la mèche courte. Et j'avais développé un certain talent que, dans certaines situations, je savais exactement quoi faire pour que, presque instantanément, elle se fâche. Et, disons-le, toujours de manière un peu disproportionnée par rapport à la faute que j'avais commise, ce qui valait donc à ma sœur, toujours à chaque fois, une petite remontrance de ma mère qui finalement la chicanait elle, et elle disait: mais oui, mais il a fait ça, mais c'était quand même pas si grave que ça. C'était pas gentil de ma part quand même, hein, d'avoir fait ça. Je vous dis ceci ce matin parce que à chaque fois que j'entends ce passage du livre des Actes des Apôtres, je me remets dans cette situation-là autrefois. Il semble bien, on dirait à première vue, que Paul sait exactement sur quel bouton appuyer pour faire en sorte que les gens autour de lui vont se fâcher. Et dans le cas présent, il s'agit des scribes et des pharisiens. Alors, on le présente devant le Sanhédrin, et là, on veut faire un petit procès pour lui. Et Paul sait ce que nous savons maintenant parce qu'on nous le témoigne. Il n'y avait pas d'accord chez les scribes et les pharisiens par rapport à la résurrection des morts. Les pharisiens y croyaient, les sadducéens n'y croyaient pas. Ainsi donc, Paul, très habile, se présente devant eux et leur mentionne tout simplement: alors, je suis ici pour le témoignage pour la résurrection des morts. Alors, il n'en faut pas plus pour que, d'une part, les sadducéens se mettent à crier tout de suite, et que les pharisiens disent: mais attendez, attendez, peut-être que finalement c'est un ange qui lui a parlé, un esprit. On fait ici allusion clairement à ce que Paul a dit quelques versets plus tôt, à l'effet qu'il avait rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Faudrait pas prêter trop des mauvaises intentions à Paul ici. Oui, Paul savait que les pharisiens et les sadducéens ne s'entendaient pas par rapport à la résurrection des morts, mais connaissant Paul et son érudition, il avait probablement l'intention de continuer son discours. C'était juste une introduction. Donc, la suite logique aurait été, de la part de ceux qui l'écoutaient, de dire: mais de qui parles-tu donc si tu parles de la résurrection des morts? Et alors, là, Paul aurait pu enchaîner en parlant: mais je parle bien de Jésus-Christ qui est ressuscité des morts. Évidemment, il n'a pas eu le temps puisqu'il a failli se faire écharder au milieu de cet affrontement entre les pharisiens et les sadducéens. Il faut savoir que cet extrait est vraiment vers la fin du livre des Actes des Apôtres. Il ne reste plus que quelques chapitres. Et là, alors que Paul, et vous vous rappelez, on l'avait entendu hier ou avant-hier, il avait peur de se rendre à Jérusalem. Il ne savait pas trop ce qui allait se passer, mais il savait que cette fois-ci, ce ne serait pas comme les autres visites, il rencontrerait probablement des obstacles. Et de fait, Paul va maintenant avoir à faire face à 3 petits procès. Alors, il y en a un qui est présenté aujourd'hui devant le Sanhédrin. Il y en a un autre dont on n'entend pas parler dans la liturgie. Il s'agit de la rencontre avec le gouverneur Félix. Et il y en a, vous pouvez aller voir ça dans votre Bible à la maison. Et le troisième est la rencontre avec le roi Agrippa, dont nous entendrons un extrait pas plus tard que demain. Tout de suite après, Paul demandera, étant donné qu'il est citoyen romain, de se rendre à Rome pour être jugé à Rome. Je vous dis ceci parce que, sans même qu'on s'en rende compte, nous avons ici l'accomplissement d'une prophétie que Jésus avait faite dans l'Évangile. Si vous allez voir au chapitre 21, verset 10 de l'Évangile selon Saint-Luc, qui est le même auteur que le livre des Actes des Apôtres, au moment où Jésus annonce la destruction de Jérusalem, la destruction du temple de Jérusalem et le retour du Fils de l'homme, il mentionne que à ses disciples qu'ils seront présentés devant les synagogues, les gouverneurs et les rois. C'est la situation de Paul qui est présenté, synagogue, c'est le Sanhédrin, le gouverneur Félix dans quelques versets plus loin, et éventuellement les rois. Donc, c'est une prophétie qui se réalise. Dans l'Évangile selon saint Jean, c'est le dernier, mais alors le tout dernier extrait du long discours d'adieu de Jésus qui prend place après le lavement des pieds, au moment où on croit que Jésus a célébré le dernier repas de ses disciples. Un testament spirituel, et là on atteint le paroxysme de ce discours que Jésus offre à ce disciple. Ce sont les tout derniers mots avant que Jésus se rende au jardin de Gethsémani, au jardin des Oliviers, et il est sur le point de commencer sa passion. Et là, on voit vraiment le cri du cœur de Jésus, qui est un cri du cœur pour l'unité entre ses disciples, pour l'amour, pour que l'amour existe toujours entre ses disciples. Mais ce qui attire mon attention dans cet extrait, c'est la conjugaison particulière des verbes. J'attire votre attention sur le fait qu'on a l'impression qu'on parle à la fois au présent, au passé et à l'avenir. C'est comme si Jésus ici se situe au-delà du temps par rapport à l'appel à l'unité entre ses disciples. C'est comme si, au fond, il venait s'adresser à chacun et à chacune d'entre nous ce matin et voir de quelle manière nous-mêmes nous avons accueilli ce message. Et je dirais, c'est non seulement à travers le temps, mais c'est aussi à travers l'espace. C'est-à-dire que cet appel à l'unité, c'est un appel à l'unité dans le monde, dans l'Église, dans nos vies personnelles et dans notre cœur aussi. Alors, je vous invite ce matin à réfléchir. Quels sont les modes de présence de Jésus dans nos vies qui ont besoin d'être purifiés et améliorés? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire en sorte que nos communautés vivent plus dans l'unité, que notre Église, notre communauté paroissiale vive plus dans l'unité, que nos familles soient plus unies et qu'enfin, à l'intérieur de nous-mêmes, qui faisons peut-être l'expérience d'un déchirement intérieur causé par toutes sortes d'événements qui ont eu lieu dans le passé, et qui peuvent nous semer la déroute, hein, nous dérouter dans notre cœur. Je vous invite donc ce matin à demander bien évidemment au Seigneur Jésus de venir lui-même travailler en nous. C'est lui seul qui peut travailler pour l'unité. Mais l'Esprit Saint peut le faire aussi. N'est-il pas le purificateur, le feu divin, hein, comme on le représente ici? Le feu divin qui peut venir purifier en nous ce qui a besoin d'être purifié. Et alors que nous sommes toujours durant le mois de mai, la Vierge Marie, elle qui a laissé son cœur purifié par l'action de l'Esprit Saint pour être en mesure d'accueillir son divin Fils, ne peut-elle pas, elle aussi, contribuer à faire en sorte que nous grandissions dans cette unité? C'est une prière que nous pouvons faire en ce jour pour nous-mêmes, pour le monde et pour l'Église entière. Amen.